Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette avant-dernière émission de la quotidienne de Poteau Carré spécial Euro 2020. Ça y est, on est arrivé au bout de cet Euro qui aura donc vu l'Italie sacrée championne d'Europe après avoir climatisé tout un pays dans l'antre de Wembley. Alors évidemment, pas de match à présenter demain, donc cette émission sera un petit peu plus courte que d'habitude, puisqu'on fera uniquement un débrief de cette finale. Mais vous inquiétez pas, on revient demain pour une dernière émission de débrief de la compétition. Et pour m'accompagner aujourd'hui, le plus breton des Parisiens, ou le plus parisien des Bretons, je ne sais pas dans quel sens tu préfères, mon ami Jules Quitté, comment ça va ?
Bah écoute, ça va. Une belle fin d'Euro, en vrai, on en parlera un peu plus longuement, mais on a quand même eu le droit, je trouve, à une belle finale pour cet Euro. Et c'était bien cool, mais voilà, vous entendez à ma voix également que j'ai peu d'heures de sommeil au compteur.
Je crois qu'on est un peu tous dans la même situation aujourd'hui. Mais on a eu quand même une super même dernière semaine de football quand même. On s'est quand même bien régalé cette dernière semaine. Et pour m'accompagner avec Jules, le plus bourguignon des Parisiens peut-être.
Ou le plus, je sais pas comment on appelle les habitants de l'Arizona.
Ah oui, bah le plus américain des Français.
Ouais, on va non, dire je ça comme pas ça. Quand même les Américains, mais uniquement Phoenix.
Comment ça va, Flo ?
Écoute, ça va très bien. On a eu un extraordinaire week-end sportif, je trouve.
Ouais, c'est vrai.
Avec plein de choses. J'ai complètement oublié le tennis, mais en tout cas, le foot, c'était plutôt sympa. Et je suis très heureux de cette finale de l'Euro et très heureux de cette finale de la Copa América aussi. Et juste, je trouve ça magnifique l'année du décès de Maradona de voir l'Italie et l'Argentine gagner la Copa América et l'Euro.
Bon, messieurs, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet directement et qu'on fasse un petit débrief de ce match, de cette finale. Allez, c'est parti. Alors, le débrief de cette petite finale, donc l'Italie qui s'est imposée au pénalty, 3 pénaltys à 2, avec 2 arrêts de Gianluigi Donnarumma notamment. Messieurs, par quoi commencer ? Je vous propose qu'on parle un petit peu de l'Italie. Est-ce que cette victoire italienne n'est pas avant tout la victoire de Roberto Mancini ?
Si, clairement. L'état dans lequel il reprend l'Italie il y a 3 ans, en 2018, après le fiasco de la non-qualification à la Coupe du Monde, et l'emmener là, que ce soit en termes de résultats avec une équipe, un groupe assez jeune, un groupe complètement remanié quand il arrive en 2018, et l'amener jusque-là d'un point de vue à la fois donc de la victoire, mais aussi d'un point de vue du jeu, c'est complètement sa victoire. On se souviendra qu'il avait fait des choix très forts dans le début en installant Barella, en prenant Zaniolo, qui est un autre milieu qui n'a pas joué 7 euros, mais en le prenant alors qu'il n'avait même pas joué de match en pro à la Roma. Pour moi la victoire est complètement la sienne.
Et à l'inverse, Jules, est-ce que c'est pas surtout et aussi la défaite de Gareth Southgate hier soir?
Ouais, complètement. Bah après, du coup, pour appuyer un peu ce que dit Flo, là où ça se vérifie complètement, c'est que dans l'équipe d'Italie qu'on a actuellement, il y a 2-3 ans, t'avais la moitié du groupe qui était sélectionnable. Pas forcément sélectionné, mais qui était sélectionnable. Donc, il n'y a pas eu un renouvellement de génération de dingue. Il a juste fait les choses comme il fallait. Enfin, la stat, elle est quand même folle. Là, ils ont quand même pas perdu, les gars, depuis 3 ans. C'est 34 matchs sans défaite. C'est quand même dingue. Enfin, ça montre beaucoup de choses. Et Southgate, c'est une cata hein, ce soir. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe quand tu vois le réservoir qu'il avait. Moi, je trouve, alors, évidemment, on va lui tomber dessus pour les pénaux. Et moi, je trouve que c'est du n'importe quoi. Je trouve que ce qu'il a fait sur les pénaux, c'est n'importe quoi et que ce sera normal qu'on lui tombe dessus. Tu fais pas rentrer deux gamins de 20 ans, qu'on pas joué et qu'on 30 secondes dans les jambes pour leur faire tirer les pénaux, ça rime à rien. Enfin,
surtout quand on a un Jordan Henderson qui a une expérience, qui prend des pénalties et qu'on le sort pour faire rentrer des soi-disant meilleurs tireurs de pénalties.
Ouais, non, mais c'est très contestable, mais même en dehors de ça, l'Italie a perdu contre la première grosse équipe qu'ils ont affrontée, hein. Il a quand même pas drivé son groupe d'une manière exceptionnelle. Ah oui, l'Angleterre, pardon. Et moi, je suis effaré de voir sur un schéma, sur un match de 120 minutes, qu'un mec comme Phil Foden joue pas une minute, quoi. Enfin, il y a des trucs qui m'effarent quand même pas mal dans ses choix tactiques. Et on aura le temps sûrement d'en reparler quand on fera le plus longuement le débrief de l'Euro en général. Mais il s'est planté sur la finale. Et au final, tant mieux que Mancini ait gagné sur Southgate pour moi.
Bon, alors Phil Foden était blessé sur ce match-là.
Ah ouais,
il n'était pas sur la feuille de match. Ouais.
Ça, mais, je mais pense bon, que ça a bien arrangé Southgate.
Ouais. Non, mais c'est le même concept avec Rashford et Sancho.
Oui,
quoi.
Oui,
c'est,
oui,
l'idée
oui.
L'idée est la même.
Ah, je n'ai pas blessé, ok.
Mais quand même, Southgate avait quand même essayé d'innover un petit peu par rapport à sa compo. Il était passé dans un système à 3 derrière avec deux pistons très hauts en la personne de Luke Shaw et de Kieran Trippier. Et on a cru au bout de 2 minutes que c'était un choix payant puisque le premier but donc, arrive justement d'un centre de Trippier pour Luke Shaw.
On en avait parlé un peu dans l'émission d'hier. C'est que justement, je pense qu'ils avaient, après le match où les pistons danois ont mis pas mal en difficulté les latéraux anglais sur le dernier match. Je pense qu'il a voulu répondre aux pistons italiens en phase offensive alors en mettant justement 5 défenseurs. Et ça a été intéressant aussi offensivement parce qu'on a vu côté droit Walker vraiment dépasser sa fonction de défenseur central sur le papier et beaucoup dédoubler avec Trippier. On le voit notamment sur l'action du but où il va très loin, sur une autre action derrière où Kane fait une super ouverture. Donc ce côté-là a été intéressant et la première demi-heure, mais même la première mi-temps anglaise est vraiment très très bonne sur ce point de vue-là. Il y a beaucoup de dépassements de fonction. Ils arrivent vraiment bien à trouver Sterling sur les côtés.
Avec une première mi-temps assez folle de Harry Kane
Harry Kane qui décroche, qui fait 2 ouvertures magnifiques et au final le but symbolise totalement cette réussite de la défense à 5 et des pistons anglais puisque c'est Trippier qui vient centrer pour Luke Shaw au deuxième poteau. Et puis après, l'Angleterre a un peu faibli et surtout les ajustements italiens ont permis à l'Italie de reprendre la main sur le match et la fin du match a été complètement italienne.
Ouais, notamment la fin de première mi-temps où on sent que les Italiens commencent à revenir un petit peu. Le problème, c'est qu'ils jouent un petit peu à 10 contre 11 à cause de Immobilier qui est quand même pas du tout dans son match et pas du tout adapté à ce système-là. Et quand Mancini fait son changement aux alentours de la 55e, il fait un double changement, il fait rentrer Cristante aussi en même temps. Bah là, l'Italie est transformée et le résultat arrive 10-15 minutes après.
Mais moi, pour aller dans le sens de Flo, et je suis d'accord sur ce qu'il a dit sur l'animation avec ces pistons-là, ce qui me chagrine un petit peu, et je pense que je vais faire un commentaire qui va rendre fou de joie et Alex et Flo, mais c'est que Southgate, en vrai, il a fait du sous des champs. C'est pas possible de partir du principe qu'il veut jouer avec un bloc solide et donc que se concentrer sur les pistons, etc. Et de se dire, bon, l'animation offensive, bon, bah, Kane et Sterling, ils vont se démerder. Quand t'as des mecs comme Grealish, etc. sur le banc, enfin, ça manquait. Moi, je trouve que ça manquait quand même fortement de créativité devant. Et qu'il avait 2-3 cartouches sur le banc pour s'en occuper, enfin pour gérer ça. Donc c'était un peu dommage. Et je trouve que parallèlement, comme tu viens de le dire, Val, j'ai trouvé le coaching de Mancini excellent. Il faut quand même avoir un peu de coronet pour faire sortir son 9 titulaire aussitôt dans le match. Pelotti a fait un
super travail. On parle d'immobilier, mais l'entrée de Cristante est très intéressante aussi.
Alors qu'on
se dit que sur le banc, il y a quand même Locatelli et Pessina qui ne rentrent pas tout de suite, mais finalement, c'est un choix qui s'avère payant.
Moi, je n'ai pas compris. Quand il a fait rentrer Cristante au début, je me suis dit, putain, c'est quand même très chelou, parce qu'en plus, il a un profil quand même plus défensif qu'un Locatelli ou autre. Et au final, il a battu un travail monstrueux. Je trouve que dans la hargne et tout, il a été énorme.
Ouais, puis on a vu Cristante beaucoup se projeter offensivement, même dans le dos des défenseurs centraux, ce qu'on n'attendait pas forcément de Cristante. Alors après, sa qualité technique n'est pas forcément la même que les autres milieux italiens. Mais de toute façon, on sait que l'Italie avait cette profondeur de banc. Pessina n'a pas été utilisé, mais Locatelli est un super joueur. Ouais. Mais vraiment, faut revenir quand même sur la sortie d'Immobilier parce que c'est le moment où l'Italie, depuis la fin de la première mi-temps, commence à reprendre le contrôle du jeu.
Ouais.
Et en fait, la sortie d'Immobilier a permis à Insigne de jouer en faux numéro 9 et de venir encore plus entre les lignes. Et alors oui, Insigne a eu beaucoup de déchets dans la dernière passe ou sur ses frappes, mais il a été beaucoup touché entre ses lignes, et ce qui lui a permis notamment de mettre vraiment en difficulté Rice et Phillips, et de beaucoup toucher Chiesa, qui pour le coup, lui, sur l'ensemble du match, à chaque prise de balle offensive, a mis un bouillon à tous les défenseurs anglais.
Il est très très fort.
Et sur ce match, en tout cas d'un point de vue offensif, c'est le grand bonhomme de cette partie. Mais le fait d'avoir Insigne qui redécrochait en faux numéro 9, ça a aussi énormément aidé Verratti et Jorginho. Et on les a complètement retrouvés en deuxième période sur leur petit circuit court là où ils redoublent les passes. Et ça a été un vrai régal cette deuxième mi-temps italienne.
Mais sur l'Euro en général, il va falloir regarder des cassettes de ce qu'a fait Chiesa quand même sur toute la compétition. Hein.
Ouais,
il a été énorme. Et moi, je tenais aussi à tirer quand même mon petit coup de chapeau parce que je trouve qu'il a quand même fait très peu de bruit dans la liste ronflante des Anglais, etc. Mais je l'ai encore trouvé énorme en première période et tout dans l'abattage, c'est Declan Rice. Je trouve que pendant toute la compétition, au milieu, pour moi, ça a été la. Enfin, pour moi, d'ailleurs, le système de Southgate se base là-dessus, mais je l'ai trouvé monstrueux en première période.
On va revenir de manière peut-être un petit peu plus individuelle sur les joueurs anglais après, mais je voulais finir avec les Italiens d'abord. Et je voulais évidemment évoquer un petit peu ce système défensif dans sa globalité, parce qu'il y a des joueurs qui ont été exceptionnels. Gianluigi Donnarumma a été le meilleur joueur de cette compétition.
Ouais.
Alors un petit peu à la surprise générale, parce qu'on s'est fait la réflexion avec Flo à la fin du match, qu'on se disait que ça aurait pu, pour l'image et pour le geste, être Chiellini,
je pense que
qui c'est... encore ce soir fait un match monstrueux avec Bonucci aussi, ouais. D'ailleurs.
C'est peut-être trop difficile de sortir un des deux centraux entre Bonucci et Chiellini.
C'est vrai qu'en plus Bonucci marque et tout. Mais...
Ouais.
Bah après Donnarumma c'était pas, enfin ça, je pense que ça a surpris tout le monde puisqu'il était gardien etc. Si tu regardes c'est pas déconnant. Moi je pense que sur chaque match de l'Italie je l'ai vu sortir un ou deux gros arrêts. Mais après Chiesa aurait pu le prendre aussi. Je pense que c'est aussi la force de Mancini, c'est d'avoir créé un collectif et quand ça commence à être dur de sortir tel ou tel joueur ou telle individualité, c'est que le coach a réussi.
Ouais, c'est ça. On a l'impression qu'il n'y a pas de, véritable star dans cette équipe. Alors, il y a des patrons, il y a des tauliers. On en parle justement avec Chiellini et Bonucci. Mais il n'y a pas un joueur qui se démarque plus que les autres. Et d'ailleurs, il y a une stat qui est folle. Et je pense que du coup, ça a dû encore être augmenté ce soir. Ouais, puisque je crois qu'il y a, l'Italie a marqué 12 buts pendant cette compétition. Je crois qu'il y a 8 buteurs différents.
Ouais.
Donc, ça prouve aussi que, que Mancini a vraiment su créer un groupe. Fédérer tout un groupe à lui tout seul sans véritable star, et vraiment chacun était mobilisé, et c'est aussi peut-être pour ça que à chacune des entrées on découvre des joueurs qu'on n'attendait pas. Je pense à Cristante évidemment aujourd'hui,
et même si tu regardes on pensait tous que la blessure de Spinazzola qui faisait un début d'Euro incroyable serait super dommageable pour l'Italie, et au final il fait rentrer Emerson qui a joué 12 matchs cette saison là etc., et qui l'a parfaitement remplacé quoi.
Ouais, il a mis du temps un peu à rentrer ce soir Emerson, mais au final il est monté en puissance sur la finale et il fait un vrai bon match.
Ouais.
Mais je voulais revenir parce que effectivement je suis complètement d'accord, il y a pas de star dans cette équipe. Par contre, il y a une ossature qui s'est clairement dessinée. Bon, évidemment Donnarumma dans les buts, mais c'est les deux axes centraux, l'axe central au milieu.
Ouais.
Surtout Jorginho, Verratti. Alors après Barella est en titulaire indiscutable aussi, il y a pas de souci à ses yeux, mais on a à mes yeux, mais on a vu Barella un peu plonger sur la fin de compétition, sur les phases finales.
Ouais, bah là il est sorti à la 55e, mais on voit qu'il est complètement cramé.
Ça soit offensivement, c'est essentiellement offensivement, je pense, mais bon, c'est aussi un joueur qui a pas joué de Coupe d'Europe ou de grands matchs, en tout cas en Coupe d'Europe ou en sélection. Donc c'était aussi pour lui une grande découverte ce niveau de la compétition. Mais c'est clair que Verratti, Jorginho et derrière Bonucci, Chiellini, c'est incroyable. Ouais. Et sur le match de Verratti, on a beaucoup raillé ces derniers temps Verratti ces dernières années pour sa qualité physique. Il a fait un euro sur ce point-là où il est monté en régime. Alors aussi, le fait de jouer moins de matchs cette année, ça l'a probablement aidé. Mais les stats sur cette finale, je les ai sous les yeux. Donc c'est 127, après seulement 90 minutes, c'est 127 ballons touchés, 7 perdus, 7 ballons récupérés, 113 passes, 107 passes réussies du coup, et 61 passes dans le camp adverse et 2 tirs cadrés, ce qui pour Verratti est très très rare.
Ouais, alors dans les 2 tirs cadrés, il y en a une, t'as l'impression que c'est une passe en profondeur, mais...
Il y a une tête sur le poteau qui n'est pas comptée.
Exactement.
Ouais.
Mais au-delà de je disais hier qu'il a été 5e meilleur intercepteur de la compétition au global, en moyenne par match, premier tacleur par match, joueur qui amène le plus de tirs après De Bruyne en moyenne aussi, donc il a fait un euro.
Non mais de manière, on est au courant que quand il arrive avec un niveau physique décent, c'est un joueur de très très haut niveau. Hein,
mais il l'a eu et on le voit là jusqu'en prolongation où il va lancer des pressings sur Sterling en prolongation. Euro de Verratti.
Moi sur Barella, je m'interroge sur quelque chose, c'est une de mes nombreuses encore théories foireuses, mais va falloir regarder dans quel club il va. Mais si vous regardez bien sur cet euro, tous les joueurs qu'on joue à l'Inter était quand même complètement cramé. Donc Conte, il va falloir qu'il arrête de faire des saisons où il essore ses joueurs. Parce que tu regardes Barella, Brozovic, Lukaku, ils sont tous arrivés hors de forme. C'est pas une vanne sur Eriksen, hein, parce que lui, il a peut-être trop cramé.
Mais
en vrai, et c'est pas la première fois que je regarde ça. Si tu regardes Conte, il est toujours en mission sur 2 ans dans des clubs et il tire toutes ses joueurs. Et les mecs arrivent très souvent hors de forme. Voilà, c'est une petite réflexion que je vous partage comme ça. Je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais à la machine à café demain, elle sera du plus bel effet, mec.
On y réfléchira et puis on en reparlera demain dans l'émission de bilan, comme ça fera un truc assez global sur l'Italie. Passons à nos amis anglais, messieurs. Bon, on a déjà, on pourrait en parler toute la soirée, mais de Gareth Southgate. Sur les joueurs, est-ce que vous avez des individualités que vous ressortez, dont vous avez envie de parler? Jules, tu nous parlais de Declan Rice tout à l'heure.
Ouais, je trouve que le milieu a quand même été très solide. Moi, je tiens à dire que je trouve que on en avait déjà parlé après la qualification de l'Angleterre contre le Danemark, Mais je trouve que moi, Pickford, je trouve pas que c'est un des plus grands gardiens d'Europe. En revanche, je trouve que la charnière devant a été assez énorme. Je trouve que ouais. Eux sont très sous-cotés, mais Maguire Stone, ça a quand même été très très solide. Moi, pour moi, voilà, Southgate a réussi à faire un peu comme Deschamps, une ossature défensive très solide. L'animation devant, c'était plus compliqué. Et voilà, après, ça veut pas dire que Southgate est l'entraîneur, le coach, le sélectionneur le plus pourri de la Terre. C'est juste, voilà, là, il s'est complètement planté sur un match. Bon, il n'y a pas de chance, c'est la finale, mais ça aurait pu marcher. Après, au niveau des individualités, il y a quand même Kane qui continue à montrer à chaque match. Enfin, moi, j'ai toujours adoré ce joueur. Que je trouve.
C'est quand même un très. Ouais, aujourd'hui, dans le cercle des grands numéro 9, il a très clairement sa place. Et même assez haut dans le classement, si on devait faire un classement, je pense.
Un des plus complets pour moi qu'on a aujourd'hui. Ah bah. Il est formidable. Et Sterling, j'ai toujours eu aussi beaucoup de tendresse pour ce joueur-là, et je trouve que Guardiola l'a transfiguré, et même s'il a une saison compliquée, je trouve que c'était un des gros bonhommes de cette Angleterre-là. Et puis après, on va voir, moi, cette Angleterre-là, ils sont un peu jeunes, hein, leur parcours, il ressemble un peu à ce que nous, on a fait quand on était, enfin, on va peut-être falloir s'en méfier à la Coupe du Monde, c'était tous des gamins un peu jeunes, ils vont prendre la maturité, il y a quand même une génération affolante qui arrive.
Mais je crois que c'est vraiment ce que nous disait Darren Tulette dans la preview avant l'Euro, qui nous disait que il était arrivé en demi-finale en 2018, que c'était le début d'un cycle qu'il avait créé. Là, c'est on peut pas dire la confirmation parce qu'au final il y a cette défaite en finale, mais c'est quand même dans la continuité de ce que est en train d'essayer de mettre Southgate. Alors tactiquement, on peut lui reprocher énormément de choses, mais je pense qu'il est très apprécié de ses joueurs. Et dans la cohésion du groupe, etc., il a vraiment réussi à former ce groupe un peu comme Deschamps l'avait fait.
Ce qui est très difficile en Angleterre. Ce qui est très difficile dans le contexte anglais, dans le contexte de la presse britannique et de l'attente de la population, des fans anglais.
Mais c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle à faire avec l'équipe de France. Oui, 2014, 2016, 2018, c'est un peu ce qui est en train de se passer depuis 2018.
Et ils vont s'en servir, ce traumatisme. Griezmann avait dit qu'il s'était servi de 2016 pour aller plus loin en Coupe du Monde et machin. Là, ils vont s'en servir aussi, tous ces gamins. Ils vont être traumatisés quelques temps et c'est reparti.
Le parallèle est immense. J'ai un doute sur l'absence de leader dans cette équipe. On pensait qu'Henderson, alors il s'est blessé, et au final le milieu Rice et Phillips a fait un super travail durant tout l'Euro, et même sur la finale ils ont été bons, alors un peu moins en seconde période, mais je pense que l'absence de leadership d'un Henderson, c'est quand même une équipe qui est très jeune, et je suis pas sûr qu'il y ait de vrais leaders, et le problème c'est qu'ils ont un gardien qui n'est pas du tout rassurant. Alors heureusement ils ont une défense qui est très solide, que ce soit sur les latéraux ou sur les centraux, et ils ont sur les latéraux en plus une vraie profondeur de banc. On peut quand même se dire que Trent Alexander-Arnold n'était pas à 7 euros, que Ben Chilwell n'a quasiment pas joué, donc il y a vraiment une profondeur sur les latéraux qui est assez énorme côté anglaise. Après effectivement ça va être l'animation offensive. On parlait du parallèle avec Deschamps. Foden est un joueur qui, pour un coach comme Deschamps ou Southgate, n'a pas sa place.
Ouais.
Il est à la fois pas assez rapide et pas assez dans la percussion pour jouer dans les trois de devant, et il est trop technique, intelligent et porté vers l'offensive et l'organisation pour jouer dans les trois du milieu. Et je pense que c'est d'une tristesse folle, mais je vois pas Southgate réussir à incorporer Foden en titulaire par rapport à ses préceptes de jeu.
Et surtout que Mount est intouchable.
Oui.
Surtout que Mount est intouchable alors que parce qu'il a justement ce travail défensif énorme qu'il est capable de faire. Là où offensivement, je le trouve très juste quand il a le ballon, mais les décrochages de Kane font qu'offensivement, il n'a pas le même impact qu'il réussit à avoir sur le jeu de Chelsea.
Non, mais je pense que Southgate est dans un objectif de réussir à faire exactement ce qu'a fait Mancini sur cette compétition, c'est-à-dire à fédérer ce groupe. Et je crois qu'il a pas mal réussi. Regarde, quand on regarde l'entrée de Jack Grealish, l'autre jour, là, il rentre, il est très motivé. L'autre jour, il rentre et après, il ressort. Et normalement, Jack Grealish, c'est un joueur qui a quand même pas mal tendance à râler sur ce genre de choses, enfin, qui aurait pu normalement avoir des déclarations, etc. Là, t'as l'impression que c'est fait pour le bien de l'équipe.
Il a su garder son groupe.
Il a su garder son groupe,
Je suis d'accord avec ça. Après, je suis d'accord uniquement avec l'aspect management et humain. Parce que sur l'aspect tactique, c'est à des années-lumière de Mancini. Mancini, en trois ans, il a réussi à construire.
Tu regardes juste sur ce match.
Exactement.
Tous les ajustements tactiques de Mancini bouffe complètement Gareth Southgate.
Et le match contre l'Espagne nous montre qu'ils ont encore une marge de progression énorme dans ce domaine-là, et que cette équipe, elle est championne d'Europe, mais elle est très loin à mes yeux d'avoir atteint sa maturité. Notamment parce qu'il va lui falloir peut-être trouver un autre numéro 9 immobilier.
Et attention, derrière, on voit que derrière, je vois pas qui va prendre la relève, ça va être tendu.
Bah, même ce soir, hein, on voit les changements offensifs, même sur les ailiers. On finit avec Belotti, Bernardeschi qui ne joue quasiment plus à la Juve.
Ouais, ça, je voulais le dire, ça fait quand même bien chier que Bernardeschi soit champion d'Europe. Pour le football, ça me fait mal à mon football.
Le petit coup de gueule, très bien. Ok, très bien, messieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce débrief de match?
Je voulais juste rebondir vite fait sur ce qu'avait dit Flo. Là où je pense que Southgate se gourre un peu dans le management, c'est que, ok, il veut fédérer un groupe et on sent bien dans le mental l'importance de Pickford dans ce groupe-là, sauf que tu peux faire ça avec des joueurs de champ, mais le poste de gardien, c'est trop important. Et je pense clairement que les joueurs de Pickford sont comptés en Angleterre. Moi, qui regarde beaucoup la Première Ligue, je trouve que le petit Nick Pope est 15 fois plus intéressant, 15 fois plus complet. Enfin, Pickford se trouve bon sur sa ligne, et c'est à peu près tout ce que je lui trouve. Et je pense que pour l'instant, ça va, parce que je pense qu'il marche bien avec le groupe, etc. Mais je pense que c'est un plafond de verre qu'ils vont devoir exploser au bout d'un moment, quoi.
Bon, Nick Pope qui a été blessé sur cette compète aussi, ceci explique peut-être cela. Et c'est aussi pour ça que je pense que Pickford a été
installé depuis quand même assez longtemps en sélection.
Ouais, Pickford, Nick Pope, il était troisième, hein, je crois, avant de se blesser dans la hiérarchie. Ouais.
Bon, en tout cas, c'est vrai qu'il y a un vrai sujet autour du gardien de but en Angleterre, parce que là, Jordan Pickford est quand même pas du tout rassurant dans sa façon.
Après, il est drôle quand même. En vrai, c'est rigolo quand même.
Ouais.
sa sortie devant Belotti ou Berardi, elle est complètement. Alors, déjà, elle peut être kamikaze sur le joueur, parce que s'il le touche, mais au-delà de ça, enfin, c'est limite s'il est derrière le joueur quand le joueur tape le ballon. Quoi. C'est
cata. Après, ouais, c'est vrai que du coup, c'est le genre de gardien qui peut nous offrir des trucs parfois des trucs de fou. Tu regardes le pénalty qui sort sur Jorginho. Il arrête quand même le pénalty de Jorginho. Il les maintient en vie. Ouais.
Mais il est capable d'une arrache Schumacher à tout moment.
Bon, quand même, messieurs, je trouve qu'on a quand même été un peu dur avec nous, et moi particulièrement avec moi-même pendant cet Euro, par rapport à nos pronos. Parce que je voulais quand même préciser que j'ai gagné la petite ligue, mon petit prono qu'on avait mis en place entre nous. Donc, entre nous et avec quelques autres amis d'ailleurs.
Avec quelques autres amis, dont un certain Enzo Furia, voilà. À qui on pense beaucoup en ce jour de gloire, qui s'est rendu en Italie sur ses terres pour fêter la victoire. Et bien, lui en a pris. Donc, grosse dédicace à lui, parce qu'on espère qu'il a bien profité de cette fête.
Mais tu dis ça juste au moment où on reçoit des vidéos d'Enzo. De sa soirée italienne. Donc on pense à lui. Bon, nous, comme je vous l'ai dit en introduction, on revient demain avec une émission de débrief de la compétition. On reviendra sur toutes les déceptions, les choses qui nous ont plu, les objectifs, la suite qui on voit pour la Coupe du Monde, etc., etc. Et du coup, restez connectés. On revient très fort demain avec une nouvelle émission. Allez, ciao.